Note tes remerciements de l'auteur. Avec tout le respect que je dois au commandant Didi Warren, ce que je préfère quand je me lance dans un nouveau roman, ce n'est pas tant de retrouver mes personnages récurrents que de chercher de nouvelles manières originales de commettre des atrocités. Et aussi, il faut le dire, de passer de sacrés chouettes moments avec des membres des forces de l'ordre qui me rappellent pourquoi il vaudrait mieux que je reste dans le droit chemin et que cette petite carrière d'écrivain continue à marcher pour moi. Pour ce roman, j'ai réalisé le rêve de toute une vie en me rendant au Centre de recherche anthropologique de l'Université du Tennessee, plus connu sous le nom de « Ferme des corps ». Je dois beaucoup au docteur Lee Jens. C'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse et elle exerce une des professions les plus fascinantes au monde. À partir du simple examen d'un tas d'ossements incinérés, elle est capable de vous dire en moins de 30 secondes pratiquement tout ce qu'il y a à savoir sur un individu, y compris son sexe, son âge, ses maladies chroniques ou la marque de son fil dentaire. J'ai vécu avec elle beaucoup de moments dont j'aurais voulu me servir dans le livre, mais je me suis dit que personne ne me croirait. Ceux de mes lecteurs qui s'intéressent à toutes ces questions morbides que sont le processus de décomposition, l'identification des restes squelettiques ou le rôle joué par les insectes après la mort devraient, toutes affaires cessantes, jeter un œil à la Ferme des corps, co-signée par le docteur Bill Bass, fondateur du centre, et John Jefferson. Vous trouverez aussi sur ma page Facebook des photos de ce petit voyage d'études fort instructif. C'est ici le moment de préciser que les anthropologues sont des experts, tandis que moi, je ne fais que pianoter sur un clavier. Autrement dit, toutes les erreurs dans ce roman sont de mon seul fait. Pour votre gouverne, sachez d'ailleurs que jamais je ne me permettrai d'accuser le docteur Jens, détentrice d'un t-shirt qui proclame « Évitez de m'énerver, je ne sais plus où mettre les cadavres », d'avoir commis la moindre erreur. Je dois aussi beaucoup à Cassandra Murray de la Canine Rescue and Recovery Task Force du Kentucky pour les informations qu'elle m'a données sur le dressage des chiens de recherche de cadavres et la vie du maître chien bénévole. J'ignorais totalement que la plupart des équipes cynophiles étaient bénévoles. Ces personnes et leurs chiens accomplissent un travail admirable. Leur dévouement et leur sens du sacrifice méritent toute notre gratitude. Là encore, toutes les erreurs sont de mon fait, n'y songez même pas. Viennent ensuite l'agent Penny Fréchette, ainsi que plusieurs de ses collègues policières qui ont préféré garder l'anonymat. J'ai apprécié le temps que j'ai passé avec ces femmes, la franchise de leurs propos et ma première patrouille en tant qu'observatrice. Qu'est-ce que j'étais nerveuse ! La policière, non. Les lecteurs qui s'intéressent aux procédures policières doivent être avertis que j'ai pioché dans les pratiques de différents services pour imaginer les conditions de travail de Tessa Leoni, qui ne sont donc pas nécessairement représentatives de la vie d'un policier d'État dans le Massachusetts. La police d'État du Massachusetts est une institution éminemment efficace et respectable, et je salue la patience dont elle fait preuve avec les auteurs de polars qui ne se privent pas de recourir à la licence romanesque. Au chapitre des expériences mémorables, quoique éprouvantes, je dois aussi remercier le commissaire Gerard Torgan et son adjoint Brian Dessy, tous deux employés au bureau du shérif de Suffolk County, pour la belle journée qu'ils m'ont permis de passer à la maison d'arrêt. Ce n'est pas tous les jours que je me rends à Boston pour le plaisir d'être incarcéré, mais ce fut riche d'enseignements. Par exemple, s'en tenir aux crimes fictifs parce que je peux vous dire que je ne tiendrai pas une journée derrière les barreaux. On m'a fait visiter un établissement de premier ordre. Et moi, comme de bien entendu, j'en ai fait le théâtre de nouvelles scènes de violence parce que, c'est ce que je fais de mieux. Toute ma gratitude va aussi à Wayne Rock pour ses conseils sur les aspects juridiques et les éclairages qu'il m'a apportés sur la police municipale de Boston. Ancien enquêteur dans cette maison, il répond toujours à mes questions avec beaucoup de patience et n'a plus l'air étonné quand j'attaque en demandant « Alors voilà, je voudrais tuer un type, mais sans que ce soit ma faute, quelle est la meilleure méthode ?» Merci, Wayne. Je suis aussi redevable à Scott Hale, dont la famille travaille dans la marine marchande depuis 3 générations. Il a accepté de me faire profiter de ses lumières sur la question, alors même qu'il savait que j'allais tuer le personnage du marin. Merci, Scott. Et pour clore le chapitre des recherches, je dois une reconnaissance éternelle à C.G. Lyons, remarquable médecin et elle-même auteur de polar, pour ses conseils médicaux. Il faut se rendre à l'évidence, tout le monde ne répondra pas à des courriels ayant par exemple pour objet « Besoin conseil en vue mutilation ». Merci, C.G. Mais l'écriture d'un roman ne se résume pas à des visites guidées de prison et autres virées avec des policiers, et il me faut donc aussi remercier David J. Hallett et Scott C. Ferrari. Ils ont écrasé toute la concurrence par leurs généreux dons à notre refuge pour animaux abandonnés et ont ainsi gagné le droit pour Skyler et Kelly, leur terrier irlandais à poils doux, de figurer dans le roman. J'espère que vous avez apprécié leur talentueuse apparition. Merci de votre soutien au refuge. Comme je ne pouvais pas laisser les animaux s'amuser tout seuls, félicitations à Heather Blood, lauréate du 6e tirage au sort annuel Kill a Friend, Maim a Buddy. Elle a donné le nom d'Erica Reed à un personnage de ce livre. Bravo aussi à la Canadienne Donna Waters, qui a remporté le tirage au sort international Kill a Friend, Maim a Met et sacrifie sa sœur Kim Waters dans le roman. J'espère que votre immortalité littéraire vous fait plaisir. Et pour tous ceux qui espèrent entrer dans la danse, www.lisagardner.com. Il va de soi que je n'y serais jamais arrivée sans ma famille. Depuis ma fille adorée qui me demandait tous les jours si j'avais enfin sauvé la petite fille, jusqu'à mon mari. D'une patience d'ange, il est maintenant tellement habitué à avoir une épouse qui part se promener en prison qu'il ne me demande même plus à quelle heure je vais rentrer. Ça, c'est de l'amour, je peux vous le dire. Enfin, dans les rangs de l'écurie Gardner, mon précieux agent Meg Relais, ma brillante éditrice Kate Misiak et toute l'équipe éditoriale de Random House. Je n'ai aucune idée du nombre de personnes talentueuses et consciencieuses qu'il faut pour produire un roman. Je suis redevable à chacune d'elles. Merci d'être à mes côtés et d'accomplir ce miracle. Ce livre est affectueusement dédié à la mémoire de mon oncle et de ma tante Darrell et Donna Holloway, qui nous ont appris à rire, à aimer, et bien sûr à jouer aux cartes. Merci aussi à Richard Miles, alias Oncle Dick, dont la passion des grands livres, des beaux jardins et des Manhattan bien dosés restera dans les mémoires. Nous vous aimons et nous nous souvenons. Vous venez d'écouter « Preuve d'amour » de Lisa Gardner, traduit par Cécile Deniard, lu par Bénédicte Charton.